Vous êtes sur RTL.
Oui, à peu près, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout deux fois plus de morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi.
Ah, bien sûr.
Enfin, en France, en tout cas, hein, je parle uniquement. Hein, et ça, les jeunes, souvent, le voient pas. Et pourtant, il suffit de regarder les monuments aux morts et de voir la longueur des noms de la Première Guerre mondiale par rapport à la Deuxième. Et on voit bien la différence, hein, par rapport à tout ça, quoi.
Et 1 500 000, ça veut dire que chaque famille, quasiment, était touchée. Parce que c'est là qu'on voit que les sociétés ont changé. On envoyait les gosses à la boucherie. Aujourd'hui, ça durerait 24 heures avec les réseaux sociaux, parce que l'opinion publique n'accepterait évidemment pas ce qui s'est passé entre 14 et 18.
Oui, c'est sûr. Bon, alors il y en a qui n'ont pas accepté. À partir de 1917, il y a quand même eu des mutineries, il y a quand même eu des grèves, il y a eu des gens qui ont ressenti un certain ras-le-bol par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'avec l'endoctrinement qu'il y avait eu pendant la Troisième République et avant 1914, où les jeunes étaient à l'école élevés avec il faut récupérer l'Alsace-Lorraine, etc., etc. On avait eu quand même des gens assez motivés, quoi, pour partir. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ce que ça dure autant de temps. D'ailleurs, quand ils partent avec des tenues d'été, ils sont pas du tout, habillés pour résister à ce qu'ils vont rencontrer derrière, quoi.
Et en la France, fleur au fusil, d'où l'expression qui a fait Flores. Ils avaient une fleur au bout de leur fusil. Et donc,
Alors, il y a eu quand même des désertions, hein. Il y en a eu quand même. On n'en parle pas beaucoup. C'est un peu plus étudié aujourd'hui sur le champ historique. Il y en a eu quand même un petit peu. C'est pas non plus totalement négligeable, quoi. Voilà, quoi.
Quel âge ont vos étudiants, quoi, vos collégiens ou vos lycéens?
Alors moi j'ai des lycéens, donc ils ont entre 16 et 15 et 18 ans, quoi. Et la Première Guerre mondiale, là il y a un nouveau programme d'histoire qui est rentré en application depuis l'année dernière, et on redonne, je dirais, alors c'est personnel, mais on redonne à la Première Guerre mondiale la place qu'elle avait perdue, parce que pendant 10 ans, on nous demandait d'étudier les guerres du XXe siècle, et là-dedans, dans ce gros panier, on mettait la Première, la Deuxième, la Guerre froide, les nouvelles conflictualités, le terrorisme, et les gamins mélangeaient tout. Il y avait des confusions entre les batailles de la Première, les batailles de la Deuxième. De toute façon, il ne fallait pas enseigner les batailles. Hein. C'était quelque chose qui faisait complètement has-been. Et là, dans le nouveau programme, la Première Guerre mondiale est placée en fin de classe de Première, et on est revenu à une étude militaire de la guerre, si j'ose dire, dans un premier temps, et puis l'impact après sur les populations qui ont combattu, et les populations civiles aussi. Donc on a, je trouve que on a remis quand même cette guerre en situation de prendre une place dans la mémoire des jeunes, parce que c'était un peu light jusqu'à présent quand même.
Comment vous abordez Philippe Pétain ?
Alors, Pétain, on l'aborde à un premier moment, dans cette classe de Première, pour montrer son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Mais ce que vous dites, par exemple, et c'est délicat, et j'entendais d'ailleurs De Gaulle, j'étais assez surpris, il y avait un documentaire sur De Gaulle. Vous n'avez pas été surpris de ce que dit De Gaulle, qui rend hommage?
Il lui rend en 1966, quand il lui dit ça a été un grand héros de Verdun.
J'étais alors vraiment très surpris, effectivement, et il fait la différence entre le héros de Verdun et celui qui mènera la France à la collaboration. Mais c'est un sujet délicat, j'imagine, pour les jeunes, de leur faire comprendre que le héros de Verdun sera condamné à mort en 45.
Dans la mesure où on détaille, enfin, il faut s'en tenir au fait, quoi. Et c'est une façon de s'en sortir sans trop de problèmes. On montre son rôle donc à Verdun, on montre son rôle pendant les mutineries, parce qu'il a eu un rôle très très important aussi en 1917. C'est lui qui a quand même permis de régler relativement calmement le problème des mutineries en France. Et puis après, on le reprend en classe de terminale dans les années 30, où on voit que de plus en plus de gens pensent à lui dans le contexte des crises politiques qui se développent dans les années 30, et parce qu'il a eu l'extrême intelligence de pas montrer du tout ses orientations politiques à ce moment-là. Et puis après, il y a les faits de son action à partir de 1940, quand il devient chef de l'État français, la politique de collaboration.
Bien sûr,
etc.
Après, c'est effectivement années sombres. Merci, Pierre, de ce premier témoignage. Notre question, c'est comment on parle aux jeunes générations de 14-18, 1 500 000 morts. Je disais tout à l'heure qu'avec les réseaux sociaux, ça n'existerait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens ne savaient pas ce qui se passait. La France est rurale en 14. Les gens quittent les campagnes et vont à 500 km kilomètres de chez eux ou davantage, et personne ne sait ce qui se passe. Les poilus écrivent une lettre qui arrive de temps en temps à leur famille, et effectivement, les morts doivent être annoncés quelques jours, voire quelques semaines après. Donc la réalité, il y a la communication existe peu, la radio existe pas, simplement la presse écrite existe. Donc les Français, dans leur campagne, ne savaient pas exactement ce qui se passait, sans doute. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes avec Laurent Tessier en ce 11 novembre.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment transmettre la mémoire de la Première Guerre mondiale ? Eh bien Claudie en parle avec son petit-fils. Ce matin, nous avons même été au cimetière rendre hommage aux soldats morts. Mon petit-fils se rend alors compte de la jeunesse, de tous ces hommes tués au combat. Thierry parle de cette période avec des mots simples. J'ai bien peur que d'année en année, on prenne seulement cette date du 11 novembre pour un jour férié, un jour où il n'y a pas d'école. José partage aussi son respect et son admiration pour tous les soldats morts pour la France. Et nous devons défendre notre histoire. Demande Claire sur la page Facebook de l'émission. Partageons tous ensemble nos histoires familiales.
Charles est avec nous, qui est enseignant également à Montpellier. Et ça nous intéresse forcément, votre témoignage. Charles, bonjour. Est-ce que vos lycéens, collégiens sont réceptifs ?
Alors, bon, moi personnellement, j'enseigne pas l'histoire. En revanche, j'ai quand même, c'est une vision assez générale, assez globale justement de ce qui concerne la transmission, parce que je pense que c'est un des gros soucis à notre époque et dans la période actuelle. Et je pense que il y a des chaînons manquants au niveau de la transmission dans notre pays. Et vous savez, je pense que la transmission, c'est-à-dire dans les familles, au sein de l'éducation nationale, ne se fait que c'est conditionné fatalement par le contexte social et culturel dans lequel évoluent en fait les nouvelles générations. Et le problème, c'est qu'en France, on a un effondrement du niveau culturel. Et que par conséquent, il y a les parents n'ont plus la capacité de transmettre cette culture-là, de transmettre l'histoire de France, de transmettre en fait ce qui a fait la France en fait. Et je pense que c'est dû à cet effondrement du niveau culturel. C'est dû aussi à ce que vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, je pense que il y a une grande partie de la population maintenant qui ne se sert que du prêt-à-penser diffusé sur les réseaux sociaux, et que finalement je crois qu'on est en proie à la culture des réseaux sociaux et à des théories à tout ce qui est un peu en dessous de la ceinture, c'est-à-dire que les théories complotistes, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une forme de paranoïa généralisée, c'est-à-dire que les gens croient vraiment ce qu'on leur sert comme ça sur les réseaux sociaux, ils y participent. Mais à côté de ça, il n'y a pas ce substrat culturel. Et je pense que beaucoup de personnes sont hors sol, culturellement parlant. Et effectivement, je crois que 14-18, ça parle aux personnes qui ont un certain niveau, qui ont la capacité de, enfin, qui ont un niveau d'instruction, qui ont aussi une forme de curiosité intellectuelle, et qui, de fait, peuvent le transmettre aux nouvelles générations, à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Mais je crois que malheureusement, c'est pas dans l'air du temps. Et je crois que même dans l'éducation nationale, on se leurre, en fait.
Pierre disait pas tout à fait ça, mais ce qui est intéressant, vous parlez...
Pierre, il est un peu chez les bisounours, enfin. Je critique pas, et je veux dire, c'est tout à fait louable ce qu'il dit, et s'il le vit comme ça, moi, il y a aucun problème. Mais je pense qu'il y a quand même une curiosité en fait des élèves. Je veux dire, il y a un gros décalage entre ce qu'on croit transmettre et ce qu'on transmet réellement.
Voilà. En tout cas, Charles, quand vous parliez d'effondrement culturel, c'est intéressant ce que vous dites. En 1914. Les gosses qui quittent les campagnes, qui parfois sont allés à l'école jusqu'à 11-12 ans simplement, parce qu'ils étaient réclamés à la ferme, au champ, etc. Je suis pas certain que ces jeunes gens en 14 soient plus cultivés que la moyenne des gens aujourd'hui en 2020, un siècle plus tard.
Mais ils l'ont vécu dans leur chair. C'était un sujet d'actualité.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils n'étaient pas plus cultivés. Vous parlez d'effondrement culturel. Et je cite à dessein une France qui est rurale. en 14.
Ouais.
Je dirais pas ça de la même France dans les années 50 ou 60. Mais
bien
cette France-là, elle est parfois, d'ailleurs, elle parle un français, les patois existent encore très fortement.
Mais
dans,
vous savez,
dans cette France-là, tout le monde ne parle pas la même langue.
Oui.
Donc je rebondissais simplement sur ce mot effondrement culturel, Charles.
Ben, oui, mais parce que je pense que les gens, à cette époque-là, ils étaient peut-être plus enclins à s'instruire. Ils étaient peut-être plus curieux.
C'est sûr, c'est qu'il y avait une élite. Il y avait une élite qui était très cultivée, mais le reste de la nation n'était d'ailleurs pas là. Je suis pas sûr que vous ayez raison, pour tout vous dire.
Bon, mais le reste de la nation, peut-être qu'ils étaient plus enclins à se... Peut-être qu'ils avaient une curiosité intellectuelle qu'on n'a pas forcément maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas besoin d'être cultivé, on va dire, scolairement pour être curieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que... Et puis, de toute façon, dans les campagnes, il y avait quand même une tradition. La tradition, elle se transmettait. C'est, d'ailleurs, c'est
oui,
de la
j'entends
tradition.
Oui, j'entends bien, Charles. Bon, en tout cas, on s'est éloigné un peu. Merci, en tout cas, de ce témoignage, vous qui êtes enseignant et qui êtes au contact. Forcément, c'est ce qui nous intéresse. Alors, peut-être qu'on va prendre quelqu'un d'une autre génération. François, bonjour François.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Comment vous transmettez ? Vous avez des enfants, petits-enfants, quoi ? Petits-enfants, ça nous intéresse d'ailleurs. S'ils sont adolescents, c'est ça qui nous intéresse. Comment transmettre ?
Oui. Et puis, il faut faire de la moralité. Aujourd'hui, il n'y en a plus de moralité. Il ne faut pas oublier ces gens-là qui sont tombés pour le bleu, blanc, rouge. Ils sont tombés pour le drapeau. Vous vous rendez compte, tu n'avais pas de jeunesse. Et ce n'était même pas 12 mois, le service militaire. C'était 24 ou 36, je suppose, en plus.
Mais ils étaient envoyés à la boucherie parfois avec des généraux, pardonnez-moi de dire comme ça, juste incapables.
Tout à fait. Alors, oublier des gens qui sont tombés pour la liberté de la France, ça serait scandaleux, ça serait monstrueux. Regardez, aujourd'hui, on écoute encore les lois de Napoléon, vous voyez ? Napoléon, c'est encore plus vieux que tout cela. Mais il faut faire une moralité dans la jeunesse qui est un peu, pas tous, hein, il y a une majorité délinquante. C'est-à-dire, à la place de mettre...
Il n'y a pas de majorité délinquante dans la jeunesse, attendez.
Oui, non, mais attendez, aujourd'hui, vous voyez...
Rassurons-nous, il n'y a pas une majorité délinquante.
Non, mais une minorité. On va y aller dans la minorité, excusez-moi, j'ai inversé le rôle. Mais quand vous voyez, par exemple, les jeunes là, qui cassent tout, là, qui veulent faire tout, faut leur mettre le service obligatoire, mais pas laisser les gens aller en prison pour faire des délinquants.
Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet, c'est comment on transmet la mémoire de 14.
Ouais, ben justement, on fait la moralité également avec ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous les voyez délinquants face à vous, vous parlez du drapeau bleu, blanc, rouge, des gens qui sont morts pour la liberté, qui sont morts pour avoir des choses normales. Et ça éviterait tous les matins, ils se lèveraient à 6 heures, ils enverraient les couleurs bleu, blanc, rouge, vous voyez comme on fait dans l'armée, et bien ça leur donnerait une meilleure moralité. Et on pourrait leur parler de ce que c'était que les gens pendant la guerre 14-18 et ce qu'ils ont fait pour notre liberté à nous. Il faut revenir sur des bases. Il n'y a plus de base parce qu'on a enlevé le service militaire dans les jeunes. Ils n'en parlent plus de ça, vous voyez ce que je vais vous dire. Donc il faut revenir sur des bases où tout, l'histoire, c'est très important. L'histoire, regardez Napoléon, vous êtes d'accord avec moi, il y a encore des lois de Napoléon.
Ah oui, le code civil, c'est Napoléon.
Oui, donc automatiquement...
Code civil, code pénal.
La délinquance aujourd'hui qui fait qui casse tout dans les rues, de 16, 17, 18 ans, il faudrait les mélanger au commando, vous voyez ? C'est-à-dire que les gens, leur apprendre un peu
J'entends bien, mais je persiste à dire que ça n'a pas de rapport avec la guerre de 14-18, si vous me permettez.
Oui, mais si, parce qu'on peut faire la moralité avec la guerre, ce qui s'est passé, les libertés. Ces gens-là n'ont pas eu de jeunesse, ces gens-là, vous voyez ? Ils n'ont pas eu de jeunesse, leur jeunesse a été cassée. Donc automatiquement, ils ne faisaient pas 12 mois de service militaire en plus. Hein. Je ne sais pas comment c'était dans ces années-là, mais ce n'était pas 12 mois.
On a dit 24 mois tout à l'heure.
Bon, bah alors vous voyez, 24 mois, ça représente 2 ans de jeunesse, c'est énorme. Donc on ne peut pas oublier ça, ce n'est pas possible. Regardez, la 39-44 qui a suivi n'était pas meilleur pour nous également. Hein, il y a quand même des centaines de milliers de morts. Et donc de toute façon, un jour ou l'autre, la guerre, c'est ce qui fait le ménage de la dictature et de la liberté. Il n'y a pas le choix, on est obligé d'y venir. Bon, aujourd'hui, c'est plus civilisé parce qu'il y a le nucléaire. Le nucléaire a fait peur à tout le monde, donc ce qui fait autrement, je crois qu'on serait reparti avec la baïonnette au canon. Mais le coup de ça, il faut faire de la moralité, c'est inoubliable.
J'ai bien compris. Merci aussi de ce témoignage, François. On va marquer une nouvelle pause et parlez-nous de votre histoire de famille. Est-ce que vous avez un grand-père, arrière-grand-père? Est-ce que vous savez par exemple où il est enterré ? Parce qu'on peut être enterré à Verdun. C'est pas facile de retrouver d'ailleurs la tombe d'un des siens à Verdun. Est-ce que vous savez où il est tombé ? Comment il est mort ? Au chemin des dames ? Pourquoi pas ? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Ferdinand Foch, Joseph Gallieni, Joseph Joffre, Hubert Lyautey, Robert-Georges Nivelle, Philippe Pétain, bien sûr, Maxime Weygand, ce sont les principaux généraux du haut commandement de 14-18, des noms qui ont parfois bercé notre enfance. On est avec Suzanne. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Votre père avait fait la guerre de 14. Il avait quel âge ?
19 ans, il était né en 1895.
Et il était resté combien de temps au front ?
Intégralement, pendant toute la guerre.
De 14 à 18 ?
De 14 à 18.
Et il vous en parlait régulièrement ?
Oui, 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 il en parlait. Et moi, j'aimais bien, je lui demandais, raconte-moi la guerre. Et donc, il me racontait ce qui était racontable à une enfant.
Et quels souvenirs vous gardez ?
Ah ben, j'ai le souvenir des tranchées pleines de boue, le souvenir de raconter le bruit des obus, les barbelés. Moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand on donnait l'ordre aux soldats, baïonnette au canon, ils sortaient des tranchées et ils se battaient au corps à corps, mais ça, ils me le disaient pas. Moi, je comprenais que le mot baïonnette au canon. Je trouvais que c'était un très joli mot, d'ailleurs. Je connaissais pas exactement ce que ça voulait dire, parce que j'étais trop jeune.
Il avait 19 ans, 14. Il est décédé en quelle année, votre papa ?
Il est décédé en 1956.
Est-ce que vous avez pu avoir des conversations d'adultes avec lui sur le traumatisme ?
Non, j'avais 16 ans quand il est mort. Donc, il me racontait, oui, des choses. Je sais qu'il nous disait aussi, les copains qui mouraient dans les tranchées, les mettaient dans leur capote et les balançaient au-dessus pour pas avoir un cadavre dans la tranchée qui était déjà boueuse, pleine de rats, etc. Il m'a raconté aussi qu'il faisait très froid et que pour se réchauffer, ils allaient dans le hangar qui abritait les chevaux pour se réchauffer auprès d'eux. Et lui, il avait mis ses deux mains glacées sous les cuisses du cheval qu'il avait pris avec son sabot et qu'il avait projeté au fond de l'écurie. Voilà, c'est des anecdotes comme ça qu'il nous racontait.
C'est assez rare de passer les 4 ans. Hein. C'est pas si fréquent. On pourra poser la question d'ailleurs à Dimitri Casali tout à l'heure qui sera avec nous. Des soldats qui sont restés 4 ans. Il n'a jamais été blessé par exemple ?
Il a été blessé à Verdun. Il conduisait un char. Son char a sauté sur un obus qui était enterré. Et il a été brûlé. Il a été donc, il est rentré chez lui quelque temps, mais il n'en a gardé aucune cicatrice, ni sur le visage, ni aux mains.
Bah écoutez, des Françaises ou des Français dont le père était à Verdun, Suzanne, aujourd'hui en France, il n'y en a pas tant que ça.
Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé. J'ai 80 ans.
Oui.
Mais il s'est marié à l'âge de 40. Il s'est marié très tard, puisqu'il avait 45 ans à ma naissance. Et il nous en parlait assez librement. Je sais qu'il nous disait pas tout, évidemment. Plus tard, j'ai su que, justement, après l'ordre donné baïonnette au canon, il s'est trouvé face à face avec un Allemand qui avait son âge. Et c'est lui qui a tiré le premier. C'était lui ou l'Allemand, donc il a tiré le premier, mais ça, il nous l'a jamais dit. Il l'a dit à ma mère, qui me l'a dit beaucoup plus tard.
C'est une période qui vous intéresse beaucoup, la guerre de 14 ?
Oui, énormément, parce qu'il nous en a énormément parlé. Le 14 juillet, pour lui, le défilé du 14 juillet, c'était sacré, parce qu'il voyait défiler son régiment avec le chant de la Sambre-et-Meuse. Et depuis, moi j'étais sur ses genoux, on écoutait à la radio, parce que en 45, on n'avait pas la télé, évidemment. On écoutait le défilé du 14 juillet, et au moment où la Sambre-et-Meuse apparaissait, on était figés.
Je comprends, Suzanne. C'est important, par exemple, pour vous, que Emmanuel Macron honore aujourd'hui...
Ah, oui. Et j'ai compris vraiment, il avait 19 ans quand il est parti, et quand mes fils ont eu 19 ans, ils ont fait leur service militaire tous les trois, c'est là que j'ai compris dans quel état d'esprit il pouvait être à 19 ans lui-même.
C'est-à-dire ?
Ben c'était un jeune, quoi, il était trop jeune pour faire la guerre.
Bien sûr.
Et il voulait que des filles, il voulait pas de garçons. Et donc il a eu deux filles, parce qu'il avait trop peur qu'il y ait une autre guerre et qu'on soit obligé de partir si on avait été un garçon. Et moi, si j'avais été un garçon, je serais partie pour la guerre d'Algérie. J'avais 19 ans quand la guerre d'Algérie sévissait, donc j'aurais été réquisitionnée comme les jeunes de mon âge.
Qui n'a pas eu les mêmes conséquences, bien sûr, que cette guerre si particulière. Évidemment. D'ailleurs, c'est la guerre la plus meurtrière sur le sol français. La guerre de 14, c'est 1 500 000 morts, l'a dit tout à l'heure.
Ils ont énormément souffert, bien sûr.
Et en vous écoutant, Suzanne, je pense que les auditeurs perçoivent ça, ce sont des souvenirs qui sont très présents.
Ah, très, très présents. Pourtant, j'avais 5-6 ans quand je lui demandais raconte-moi la guerre, mais je me souviens de tout ce qu'il me disait.
Il s'appelait comment, votre père ?
Il s'appelait Claude.
Et vous avez gardé des objets militaires ou un carnet ?
Sa croix militaire, évidemment. J'ai des objets qu'ils ont fabriqués dans les tranchées quand il y avait eu une grande accalmie pendant la guerre. Donc les soldats étaient dans les tranchées, ils s'ennuyaient, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc ils faisaient des objets en cuivre avec les balles, avec les obus, le cuivre des obus qu'ils récupéraient. Et donc il avait fait des vases, d'ailleurs ma sœur en a. Et puis moi j'ai un coupe-papier qui est tout décoré, avec une balle évidemment qui avait été percutée. J'ai un coupe-papier, j'ai des briquets, il s'était fait une bague, il s'était fait des briquets où il avait marqué son prénom et son nom, et même il avait gravé Verdun dessus. Il est gravé Verdun avec des feuilles de lierre.
Ben merci beaucoup Suzanne.
Voilà.
Vraiment, c'est la première fois que vous appeliez RTL ?
Ah oui, c'est la première fois, mais là, je ne pouvais pas ne pas appeler parce que tous ces souvenirs sont toujours restés gravés.
Bah écoutez, d'abord, je suis très heureux de vous avoir écouté. Je vais féliciter les gens également qui vous accueillent au standard parce qu'il y a beaucoup d'appels et je ne sais pas si c'est Cyranouche, Pierre-Louis, Olivier ou Evan.
Oui, je ne me souviens pas exactement.
Qui vous ont écouté en premier, mais je trouve que c'est le témoignage. Vous venez de donner en fait une histoire de France en quelques minutes avec l'émotion forcément, parce que ça nous touche tous, puisque c'est notre histoire précisément. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu se reconnaître à travers votre témoignage, parce que c'est le témoignage de leur sœur, de leur mère, de leur grand-mère.
Je suis très contente aussi d'avoir témoigné. Je voulais le faire, j'ai eu d'autres occasions où je n'ai pas répondu, donc là, j'y tenais essentiellement.
Ben merci, vraiment. Et vous avez appelé au 3210 et
oui.
C'est la première fois effectivement que je vous entendais. Et c'est la première fois aussi que vous appelez. C'est très révélateur d'ailleurs.
Et moi, je vous écoute tous les jours.
Ben, vous êtes gentil. Vous habitez dans le Rhône ?
Oui, et dans la banlieue lyonnaise.
Ben merci vraiment, Suzanne. Vraiment, vraiment merci. Et puis ce soir, vous serez devant votre télévision et peut-être à l'écoute d'RTL pour voir les cérémonies du Panthéon.
Oui, oui, oui.
Merci.
Bien sûr. Au revoir, monsieur.
Bah non, vraiment, merci. Merci de ce témoignage. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je crois que nous allons peut-être écouter à l'instant l'auditrice, allez, je le dis, la plus âgée que nous ayons eue dans Les auditeurs ont la parole. Nous sommes avec Simone.
Bonjour.
Bonjour Simone, est-ce que j'ai le droit de dire votre âge ?
Si vous voulez.
Bon, vous avez 100 ans.
Voilà.
Donc vous êtes de 1920.
Voilà.
Donc d'abord je vous remercie. J'espère que vous allez bien Simone ?
Oui, à peu près.
vous habitez où ?
En province.
En province, mais vous êtes seule chez vous ou vous êtes dans maison de retraite ?
Oui, non, je suis seule.
Donc vous êtes restée chez vous, vous êtes autonome.
Oui.
Bon, ça c'est
avec des aides ménagères évidemment.
Mais ça c'est déjà extraordinaire. Mais vous sortez par exemple pour faire vos courses ?
Ah oui, accompagnée, oui.
Écoutez, je vous félicite. Bon, ça c'est bien, Simone. Et je voulais que vous témoigniez, parce qu'évidemment, en 1920, vous êtes née en 1920, donc toute votre adolescence et toute votre prime jeunesse, forcément, elle a été contaminée par la guerre de 14.
Mon père est mort en 1940, rongé par l'hypérite qu'il avait respiré pendant, à Verdun, je crois. Ou au plateau de Fiume, je crois. C'est ça, le plateau de Fiume.
Et alors, comment vous en parlait-il, votre père, précisément?
Il n'en parlait pas, il pleurait. Il ne pouvait pas en parler. Je me souviens, il y avait un film qui passait. Avec ma mère, on était allés le voir. Et lui, il a dit, moi, je m'en vais, je vais me coucher, je ne veux pas voir ça. Il n'a pas voulu voir, parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs.
Parce que c'était un traumatisme.
Oui, ben oui. Et puis la nuit, il réveille. Des fois, la nuit, il réveille la nuit tout haut.
Et vous l'avez entendu, vous? C'est votre mère qui...
Non, parce qu'on avait chacun notre chambre, mais elles étaient côte à côte, quoi. Les chambres n'étaient pas éloignées. Et j'entendais mon père qui, des fois, dans la nuit, comme ça, criait. Ma mère lui disait, mais réveille-toi.
Il était resté combien de temps au front?
Ben, de 14 à 18, jusqu'à la fin.
Donc lui aussi. Il était de quelle année, votre papa?
Ah, je ne me souviens plus. 1880 et quelques... 89, je ne peux pas vous le dire, je ne m'en souviens pas.
Donc il avait une petite vingtaine d'années en 14.
Voilà, c'est ça, oui.
S'il est de 89, il a 25.
Et là, voilà, ça a commencé d'ailleurs, je me souviens, c'est parce qu'on a parlé, et puis je vivais dans un milieu d'anciens combattants. Et alors, justement, je me souviens que Jaurès, qui avait son quartier général derrière la Bourse de Paris, il y a d'ailleurs un café qui a encore sa plaque, la plaque où Jaurès a été assassiné. Et quand Jaurès a été assassiné, les ouvriers, le monde ouvrier d'Allemagne avait réussi avec Jaurès, je ne sais plus si c'était une organisation politique, je ne peux pas vous dire ça, je ne le sais pas. Ils s'étaient réunis et ils avaient décidé qu'ils refusaient la guerre. Et justement, comme ils étaient sur le point de réussir, Jaurès a été assassiné.
Mais il est assassiné avant le début de la guerre, Jean Jaurès. Hein?
Huit jours avant.
Oui, c'est il est mort.
Il est mort 8 jours avant parce que justement, il était sur le point de réussir à redresser, à avoir une réaction du monde ouvrier qui refusait de faire la guerre.
Et il est assassiné lorsqu'il est en train de dîner dans un café.
Il était derrière le café de je ne sais plus quoi, là. Juste derrière la Bourse de Paris.
C'est ça, quoi, c'est du côté de Montmartre. Il y a toujours une plaque, vous avez raison.
Non, c'est pas du côté de Montmartre, c'est derrière la Bourse.
Non, c'est près de la rue Montmartre.
Voilà, c'est ça.
C'est près de la rue Montmartre.
Oui.
Effectivement. Simone, là aussi, c'est un témoignage qui est intéressant et qui rapporte une époque, le climat d'une époque. Est-ce que vous, c'est une période qui vous passionne?
Oh ben, évidemment. D'autant plus qu'après, il y a eu la guerre 39-45 à laquelle j'ai participé. Donc, ça m'a intéressé, évidemment.
Vous avez participé comment, Simone?
J'ai toujours le souvenir de mon père qui a été malade tout le temps parce que l'hypérite a fait son travail tout doucement, mais elle l'a fait.
Qui était un gaz, hein, l'hypérite.
Oui, c'était un gaz, oui. Et quand on leur a averti que les Allemands lâchaient les gaz, il était trop tard. Quand ils ont enfilé leurs masques, les masques étaient déjà garnis d'hypérite.
En fait, c'est un gaz moutarde, l'hypérite.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le gaz moutarde,
voilà,
oui.
Qui est composé de... Alors, pour tout vous dire, je suis en train de regarder très vite. C'est de cytotoxines et de vésicants et qui a la capacité de former de grandes vésicules sur la peau exposée. C'est ce qu'on appelle le gaz moutarde.
Voilà, et puis alors après, quand ils l'ont respiré, évidemment, ça, toute leur vie, ils ont été rongés jusqu'à mort, quoi, jusqu'à la mort.
Ben merci Simone, je suis...
C'est pour ça que je l'ai appelé, parce qu'il faut quand même dire que Jaurès et un monde ouvrier de l'autre côté étaient contre cette guerre. Et si Jaurès n'avait pas été tué, la guerre n'aurait pas pu se déclarer parce qu'ils étaient d'accord tous les deux. Ils auraient réussi à faire réagir le monde ouvrier qui, lui, a supporté les plus gros de la guerre. Ils auraient réussi à leur faire à empêcher cette guerre.
Je suis quand même surpris, Simone, que vous ayez 100 ans. Les gens qui...
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que vous avez une vitalité d'une femme de 50.
Mais je vous donne ma parole que j'ai...
Ah, mais non, mais je vous... Non, mais je vous crois. Vous avez célébré vos 100 ans ou vous les avez...
Ah
vous
oui,
avez...
non, ça a été célébré.
Parce que c'est rare quand même d'être en aussi bonne forme à cet âge-là.
Ah oui, c'est parce que je suis un être pervers.
Pourquoi vous dites ça?
Pour dire quelque chose.
Bon, ben en tout cas, non, mais vous êtes en... C'est un plaisir de vous avoir, évidemment, et puis d'entendre cette voix-là, pleine d'énergie. Merci beaucoup, Simone. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi?
Je voulais surtout qu'on parle de Jaurès, parce que quand même, c'était un homme...
Enfin, j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Vous allez regarder l'hommage au Panthéon?
Oui.
Et c'est important aussi qu'Emmanuel Macron honore cette mémoire-là.
Ben oui, et puis il n'y a pas que, il y a eu d'autres écrivains, moi j'en ai lu plusieurs. J'ai lu plusieurs livres de cette guerre-là, parce que j'ai été élevée, moi, dans ce milieu. J'ai été baignée par la guerre 14-18, c'est vrai d'ailleurs. C'est pour ça que quand la guerre de 39-45 s'est déclarée, j'ai d'abord été complètement désabusée. J'ai mis 2 jours pour aller à Bordeaux parce que mes parents m'ont visé de Paris. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai entendu, parce que c'est à Bordeaux que j'ai entendu l'appel de De Gaulle, eh ben, j'ai dit, ça y est, on va peut-être quand même être sauvés. Parce que je ne savais pas qui était De Gaulle. Moi, je ne savais pas. Mais quand j'ai entendu cet homme qui voulait faire quelque chose pour défendre la France, eh bien, ça m'a stimulé, ça m'a redonné du courage. J'avais mis 2 jours pour aller de Paris à Bordeaux. 2 jours, on était dans les trains, on ne pouvait plus bouger. Pour faire pipi, on nous passait par les fenêtres. Alors, on faisait pipi dans les fenêtres parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au WC. Ce n'était pas possible, quoi. C'était épouvantable. Hein.
Ben merci, Simone. Merci de votre témoignage. On va marquer une nouvelle pause. Je salue Boris, qui est avec nous et qui écoute ces témoignages étonnants.
Bonjour,
celui de Suzanne comme celui de Simone. Bonjour Boris. On va être avec Claudie qui nous attend. On va être également avec Cédric qui nous attend depuis un moment. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier est là.
Nous commémorons aujourd'hui le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Une cérémonie a eu lieu ce matin sous l'Arc de Triomphe à la mémoire de tous les soldats morts pour la France. Emmanuel Macron présidera en fin d'après-midi l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. Un hommage à tous les poilus. Son petit-fils, Julien Larrère-Genevoix, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
J'ai beaucoup de tendresse en réalité pour mon grand-père et d'affection parce que j'aime la manière dont il parle de ces hommes et je crois qu'il y a véritablement, c'est ce qui s'en dégage, un sentiment de fraternité extrêmement fort. Et quand je lis cette 14, je suis ému. Et quand je lis les discours que mon grand-père a tenus toute sa vie sur les anciens combattants, je suis ému parce que je mesure à quel point il n'a jamais pu dépasser totalement ce traumatisme et à quel point il a été hanté toute sa vie.
Cette année, nous célébrons également le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu et plusieurs questions se posent ce midi. Comment transmettre la mémoire de la Première Guerre mondiale? Parlez-vous de votre histoire familiale à vos enfants? Eh bien, nous serons à 14h avec l'historien Dimitri Casali, président de l'Association de défense de l'histoire de France.
Et Cédric est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être là. Comment transmettre cette mémoire avec les plus jeunes? Vous en parlez avec vos enfants?
Bah écoutez, moi, j'en parle un petit peu. Là encore, à table, on en a parlé, parce que donc, j'ai le petit qui a 8 ans. Et qui est en CE2, et donc hier il disait que la maîtresse elle avait expliqué qu'est-ce que c'était le 11 novembre, parce que bon, il savait qu'il était, c'était férié, mais voilà, donc la maîtresse elle a fait quand même un rappel, donc c'est bien. J'en parle aussi, on en a parlé avec mon fils là, qui a 17 ans, donc qui est en terminale, mais en fait ce que je disais à Olivier tout à l'heure hein, c'est que nous, pour ma part, pour notre génération, maintenant, la première guerre mondiale, c'est déjà un peu plus loin, honnêtement. Hein, là, les deux témoignages qui ont été faits par les deux dames, là, c'était très touchant, très intéressant. Mais moi, j'ai pas eu ces témoignages-là, parce que moi, mes grands-parents, ou par exemple les grands-parents de ma femme, eux, ils ont participé à la deuxième guerre mondiale. Donc, on est plus impacté, entre guillemets, par la Deuxième Guerre mondiale que par la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle doit toujours être tournée en mémoire, bien sûr, pour ne pas oublier ce qui a été vécu. Hein, et notamment, par exemple, dans la région, je suis en Moselle, donc on on est tout près de Verdun où il y a eu 300 000 morts. Hein. Et donc les écoles, par exemple, se déplacent tout le temps. Les écoles se déplacent au collège ou quoi. Ils vont à Verdun. Ils vont à Verdun, ils vont à l'ossuaire de Douaumont. Donc, ils vont visiter ça. Donc, il y a un devoir de mémoire qui est toujours fait. Donc, et qui doit être fait. Mais je pense que dans les familles, donc effectivement, quand il y a des dames comme vos deux auditrices là, qui ont appelé, donc elles transmettent toujours. Hein. Mais moi, pour ma part, qui ai 43 ans et mes grands-parents n'ont pas vécu la Première Guerre mondiale, c'est déjà plus loin pour moi, la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale me parle beaucoup plus parce que j'ai eu des témoignages de mes grands-parents et des grands-parents de ma femme qui ont participé activement.
Donc c'est plus difficile, effectivement, de sensibiliser des jeunes enfants à un événement que vous n'avez peut-être pas connu ou que vos parents n'ont pas connu, parce qu'effectivement, ça vous parle moins, c'est ce que vous nous dites, Cédric.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ça va se... Je suis sûr, Pascal, malheureusement, que ça va se perdre. Et comme je pense que si aujourd'hui vous demandez pourquoi c'est férié, le 11 novembre, je pense qu'il y en a plein qui vont pas savoir.
J'ai peur que vous ayez raison. Mais en même temps, si on demande à certains Français pourquoi Noël est férié, je ne suis pas sûr qu'ils sachent tous précisément à quoi ça correspond et à quoi correspond cette fête religieuse. Bon, merci Cédric. On va marquer une petite pause puisqu'on reparlera entre 14h et 14h30 de 14-18. Peut-être publicité. Et tout de suite après, on parle avec Céline. Faut-il interdire Noël? Et puis... Alors, il y a cette nouvelle, je suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Il n'y a pas de confinement à Monaco. Les Français, donc, affluent dans les restaurants et chez les coiffeurs. Et Monaco, la principauté de Monaco, a pris le parti de ne pas confiner. Les derniers chiffres montraient pourtant que 512 personnes y sont touchées par la pandémie de Covid. Donc, il y a un sentiment de liberté oublié qui pousse les Niçois, ceux qui sont frontaliers, à aller à Monaco et aller se faire couper les cheveux ou aller boire un verre ou aller au restaurant parce que c'est possible. Donc, on voit bien que j'ai envie de dire, Monaco, ça reste quand même la France, si j'ose dire. J'espère que je ne vexe pas les monégasques en disant cela. Mais d'un côté de la frontière, vous pouvez déjeuner. Puis de l'autre côté de la frontière, les restaurants sont fermés. Donc si vous êtes monégasque, nous on a deux spécimens dans la rédaction, Christophe Paco et Eric Silvestro. Bah, vous pouvez nous appeler si vous êtes monégasque et si vous êtes niçois aussi d'ailleurs. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et on sera tout à l'heure avec Dimitri Casali, qui est historien, président de l'Association de défense de l'histoire de France. On parlera évidemment de 14-18. Mais une petite parenthèse avec Noël. Faut-il interdire Noël, j'allais dire. C'est pas exactement la bonne formule, mais faut-il ne pas célébrer Noël? Faut-il ne pas célébrer la Saint-Sylvestre? On est avec Anne, qui est assistante maternelle dans le Pas-de-Calais. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Votre réponse?
Ben moi, je suis prête à pas fêter Noël, enfin fêter Noël avec mes deux qui me restent à ma maison, pour pouvoir revivre après. Parce que si c'est pour faire Noël et la Saint-Sylvestre et être reconfiné après, c'est totalement idiot.
Vous avez une grande famille?
Oui, j'ai 5 enfants. Et donc il y en a 3 qui vivent plus avec nous, donc on les voit pas. Et puis il m'en reste 2, un de 18 ans et une de 10.
Mais l'année dernière, par exemple, à Noël, vous étiez combien autour de la table?
Eh bien, mes 5 enfants, donc les deux ont des côtes 7. 7 et nous 2, une dizaine.
Oui, donc c'est pas raisonnable.
Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis prête pour pouvoir revivre après, parce que là, il faut s'en sortir. Enfin, ça sert à rien de faire une grande fête. Et puis après, ben, tout recommence, on est reconfiné, parce que nous, on respecte. On essaye de respecter. Moi, j'ai un fils qui habite en face, on se fait coucou de la fenêtre, enfin, on se voit pas.
Non.
Ah si, ben, pendant le premier confinement, je faisais des gâteaux, j'allais poser sur sa boîte aux lettres, et il sortait, il allait chercher les gâteaux. On s'est pas vus. Bon, il est pompier, donc il voulait pas non plus... on voulait pas se contaminer ensemble. Nous, on nous a dit de pas sortir, ben on sort pas, puis c'est tout. Alors qu'on a une vie... en vrai, on sort, on va à des concerts... C'est pour ça que je veux revivre.
Donc vous êtes très respectueuse des consignes et vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, rebelle par rapport à cela. Il y a parfois des gens qui sont rebelles ou qui acceptent mal. Vous, c'est pas.
Je porte le masque. Pendant le premier confinement, comme je suis assistante maternelle, je gardais les enfants de soignants. Donc moi, je suis pas sortie pendant 2 mois pour pas contaminer les petits, justement. Et c'est mon mari qui faisait les courses tous les 10 jours.
Écoutez,
on a
Anne,
essayé de respecter, voilà.
Ben vous avez, j'ai envie de dire, on ne peut pas vous reprocher de faire ce que vous faites, en tout cas.
Voilà, donc moi, je voudrais que ça s'arrête, en fin de compte.
Ben, on voudrait tous que ça s'arrête. Alors, Céline voilà. est là également. Et restez avec nous, Anne, parce que Céline va pouvoir peut-être échanger avec vous aussi. Bonjour, Céline.
Bonjour, Pascal.
Donc, pas de Noël pour vous non plus ?
Ben, je rejoins complètement Anne, non, moi non plus. Je pense qu'effectivement, si on redéconfine tout le monde à Noël, c'est reparti, quoi. C'est souvent, je pense surtout à la Saint-Sylvestre, l'occasion de boire un peu plus d'alcool que d'habitude. Et puis, ça va boire dans les verres les uns des autres. Et puis, hop, ça va reflamber, quoi.
Non, mais c'est vrai que là, on l'a dit déjà hier, autant il y a des choses qui pourraient rouvrir comme des petits commerces quand il y a une personne simplement dans une pièce. Mais mettre 12, plus de 10 personnes dans la même pièce, si c'est pas aéré pendant 3 heures ou 4 heures... Franchement, pour le coup, c'est pas raisonnable.
Bah, c'est pas forcément, la saison n'est pas vraiment propice à l'ouverture des fenêtres et des portes, quoi. Donc, forcément, oui. Et puis, les enfants qui viennent, qui font des bisous, on peut pas empêcher ça, c'est naturel, surtout si on s'est pas vu depuis un moment. Donc, après, j'ai conscience qu'il y a des familles qui sont distantes les unes des autres parce que, les événements de vie font qu'elles sont. Elles sont éloignées. Moi, comme j'ai dit à mes parents, je préfère me priver de vous cette année et assurer 5 autres Noëls derrière, plutôt que de se voir à tout prix et puis qu'ils se chopent une cochonnerie et puis qu'après... on le paye pour le restant de nos jours, quoi.
Alors, il y a une dimension aussi qui n'est pas mise en avant, parce qu'on parle de fête commerciale, de fête de famille, etc. Mais c'est aussi une fête religieuse, Noël. Et c'est pour beaucoup de catholiques... un moment extrêmement important et ils n'imaginent pas, par exemple, ne pas aller à la messe.
Oui, enfin, ça aussi, pour moi, c'est un faux problème. La religion, on peut la vivre chez soi, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un lieu de culte.
Oui, là, il y a discussion quand même.
Mais enfin, il y a des cérémonies religieuses qui sont retransmises à la télé.
Il y a discussion sur ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais il y a discussion. Il y en a qui pensent que ce moment-là de fraternité, de partage, de convivialité, ils n'imagineraient pas, ils verraient ça même comme une atteinte très grande à leur liberté de culte, d'imaginer les messes de minuit ou les messes parfois de 20h, aujourd'hui le 24 décembre, et a fortiori le 25 décembre, les églises fermées le 24 et le 25 décembre, ça peut être un problème.
C'est sûr que c'est pas la même dimension hein, de le vivre en direct ou de le vivre par l'intermédiaire d'un média. Et c'est certain que c'est pas la même solennité, c'est pas du tout la même émotion. Ça, c'est sûr. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Je pense qu'il faut savoir cette année accepter que cette année est une année particulière. Mais on a voulu déconfiner pour l'été et je pense qu'on était tous bien contents de ça, on va pas se mentir. On voit où ça nous a mené et au final, on a dû reconfiner. Donc, on peut pas confiner et redéconfiner comme ça pendant des années. À un moment donné, il faut...
Je suis bien d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous ? L'année dernière, vous étiez combien, par exemple, à Noël ?
Eh bien, moi, j'ai un frère, sa femme et ses 3 enfants et puis mes 2 parents. Donc, cette année, du coup, on est bien d'accord avec mon frère que pour préserver mes parents, qui sont pas très âgés, hein, ils ont entre 65 et 70 ans, mais pour les préserver, on ne prendra pas le risque.
D'accord, donc vous serez avec...
Avec mon mari et mes 2 enfants.
D'accord.
Bah, écoutez, maison, c'est... et puis s'il faut, on s'appellera sur WhatsApp ou voilà.
C'est sans risque, a priori.
Voilà, mais nous, on est tous d'accord là-dessus. On ne veut pas prendre de risque pour nos parents. Ils font tous les deux de l'hypertension, donc c'est une comorbidité, donc on ne prend pas le risque. Comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère comme ça, et puis pour être sûr que l'année prochaine... ils sont encore présents, ou en tout cas pas de se dire ils sont décédés du Covid et en plus c'est nous qui leur avons ramené le soir de Noël. Si on avait su...
Bien sûr.
Moi, bien sûr. J'avais su, je préfère l'anticiper.
Une information qui vient de tomber, je vous lis la dépêche telle qu'elle m'arrive. Les premières vaccinations contre le Covid-19 dans l'Union européenne pourraient avoir lieu au premier trimestre 2021. Dans un scénario optimiste, a affirmé mercredi la directrice de l'Agence européenne en charge des épidémies lors d'un entretien à l'AFP. La situation sur le front de l'épidémie sur le vieux continent est très très inquiétante et tous nos indicateurs vont dans le mauvais sens, a par ailleurs affirmé Andrea Hamon, qui est donc directrice du Centre européen de contrôle des maladies, appelant les Européens à respecter scrupuleusement ce que vous faites, les restrictions en place, aussi difficiles que ce soit. Voilà,
après,
Céline.
J'entends bien, hein, y a des, c'est un peu plus facile pour moi de dire ça. Moi, j'ai mes parents qui habitent à 15 km, mon frère à 35 km. Mmh. Les familles qui sont distantes, je peux comprendre que, voilà, on ne le vit pas de la même façon, forcément, puisque moi, je les vois régulièrement dans le courant de l'année. Je peux complètement comprendre la frustration que ça peut générer quand... on a ses parents à 800 km.
Oui, et puis il y a des vieilles gens parfois qui, on l'a vu dans le premier confinement, qui refusent l'idée précisément de confinement, qui disent, moi, je glisse. C'est le syndrome de glissement si je ne vois plus personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a permis aux EHPAD d'ouvrir et de faire des visites, parce qu'à un moment, le remède peut être pire que le mal.
Oui, tout à fait. Ah oui, oui, pour les personnes âgées, effectivement, oui. Ça, j'entends bien. Mais après, voilà. Le problème, c'est que s'il y a une exception, tout le monde va réclamer son exception. Mmh. Et oui, ce que vous dites, ça pourrait être pertinent pour les personnes âgées, par exemple, qui vivent seules. Mais où est-ce qu'on limite les exceptions, quoi? Le problème, il est là. Chacun va vouloir défendre son bout de gras et tout le monde aura raison, quelque part.
Merci Céline, merci Anne et également. On va basculer sur le sujet 14-18 avec Dimitri Casali, qui est là, qui est historien, qui est président de l'Association de défense de l'histoire de France. C'est intéressant la période qu'on vit à mettre en parallèle avec la guerre de 14-18 dont on va parler, parce que je disais tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, la guerre de 14, elle dure 24 heures. Parce que tout le monde est au courant précisément de ce qui se passe et l'opinion publique dit stop. On n'envoie pas nos gosses à la boucherie comme ça s'est passé entre 14 et 18. Et je disais, les gens, au fond, n'étaient pas au courant dans les campagnes. Les gosses partaient, la France est rurale. Est-ce que c'est vrai, ça?
On est dans un moment de rupture, hein, rupture d'intensité de la guerre. On ne va jamais connaître une guerre aussi mécanique, hein, de brutalisation. Mais aussi, il y a les premières, c'est vrai, les nouvelles commencent à rentrer quand même dans les provinces. On est vraiment à un moment fatidique, hein, de l'information aussi. Donc je pense que dans les moyenne ville, effectivement, la communication se faisait, mais dans les zones rurales, un peu la diagonale du vide qui existait déjà à l'époque, vous avez tout à fait raison, on communiquait, on parlait très peu de cette guerre.
Donc les gens n'étaient pas au courant de la violence et de ce que subissait sans doute leur piou-piou qui était au front et qui avait 20 ans.
Et puis ce qui est fondamental, en 1914, la guerre est l'horizon naturel des Français, des Européens. En fait, ils vivent encore en 1914 avec cet esprit depuis le Moyen Âge où les gens vivaient avec la guerre. Donc, il y a toujours eu des guerres et pour eux, donc, c'était la normalité.
Eh bien, on va en parler avec vous et avec les auditeurs qui vont pouvoir vous interroger. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
80 000 PV ont été dressés en 10 jours. 283 PV à l'encontre d'établissements, de restaurants, de salles de fête qui avaient accueilli des clients. Et Gérald Darmanin veut serrer encore la vis. Il demande aux forces de l'ordre d'être en effet plus sévères pour sanctionner donc les infractions au reconfinement. C'est demain qu'un nouveau conseil de défense se tient pour faire le point sur l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex tiendra ensuite à 18h une conférence de presse. Peu de chances qu'il annonce un assouplissement des règles. L'épidémie reste à un niveau très élevé, notamment dans les hôpitaux. Même si les effets de ce reconfinement sont là, le taux de contamination est en baisse assez sensible en France. Les premières vaccinations contre le Covid dans l'Union européenne pourraient avoir lieu au premier trimestre 2021. Voilà ce que vient d'expliquer dans un scénario optimiste l'Agence européenne en charge des épidémies. Plusieurs personnes ont été blessées ce matin à Jeddah en Arabie Saoudite au cours d'un attentat. Au moins un explosif a été lancé dans le cimetière non musulman pendant les cérémonies du 11 novembre en présence du consul de France. C'est la deuxième fois que la France ait visé en Arabie Saoudite en quelques semaines dans un contexte de tension en raison des caricatures de Mahomet. L'un des favoris du Vendée Globe, Jérémy Bayou, fait demi-tour. Il a cassé son safran et doit rentrer au Sable d'Olonne pour tenter de réparer. En football, la France affronte ce soir la Finlande en amical à 21h10. Ce sera à suivre sur RTL et sur M6. Et puis un mot de météo. Le temps restera sec aujourd'hui à peu près partout. Ce sera pareil demain matin, globalement nuageux, mais avec des éclaircies. Il pourra pleuvoir seulement du côté de Limoges, de Vichy ou plus à l'est vers Belfort. Les températures demain matin autour des 10 degrés à peu près partout, 15 degrés sur la Méditerranée.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Cette guerre de 14, évidemment, qui fascine Laurent Tessier.
Nous commémorons aujourd'hui le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Une cérémonie a eu lieu ce matin sous l'Arc de Triomphe à la mémoire de tous les soldats morts pour la France. Emmanuel Macron présidera en fin d'après-midi l'entrée au Panthéon de l'écrivain combattant Maurice Genevoix. Un hommage à tous les poilus. Et son petit-fils, Julien Larère Genevoix, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
J'ai beaucoup de tendresse en réalité pour mon grand-père et d'affection parce que j'aime la manière dont il parle de ces hommes. Et je crois qu'il y a véritablement, c'est ce qui s'en dégage, un sentiment de fraternité extrêmement fort. Et quand je lis cette 14, je suis ému. Et quand je lis les discours que mon grand-père a tenus toute sa vie sur les anciens combattants, je suis ému parce que je mesure à quel point il n'a jamais pu dépasser totalement ce traumatisme et à quel point il a été hanté toute sa vie.
Il a fait des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie, disait aussi le petit-fils de Maurice Genevoix sur RTL. Cette année, nous célébrons également le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu. Vous savez que la tombe repose sous l'Arc de Triomphe. Mais peu connaissent cette histoire.
Oui, en 1920, pour honorer les disparus de la Grande Guerre, la dépouille d'un soldat non identifié doit être choisie pour un transfert vers Paris. Ce choix, c'est Auguste Thin, jeune soldat de 21 ans, dont le père fait partie des disparus de 14, qui va le faire parmi 8 dépouilles qui lui sont présentées.
La suite de l'histoire est racontée par Antoine Carangeau, c'est le directeur de l'Office national des anciens combattants de la Marne, interrogé par Brice Dugénie.
Lors de cette cérémonie, il va faire un premier tour d'honneur en hommage à tous les morts de la guerre, puis lors du deuxième tour, va déposer un bouquet d'œillets sur le 6e cercueil. Pourquoi le 6e ? C'est tout simplement l'addition des chiffres de son régiment, le 132. C'est en tout cas la justification qu'il va donner à son geste.
Et nous vous posons cette question au 3210 depuis le début de l'émission. Parlez-vous de votre histoire familiale à vos enfants ? Eh bien, Suzanne nous a appelé. Son père a fait la Première Guerre mondiale. Il avait 19 ans en 1914.
Il racontait le bruit des obus, les barbelés. Moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand on donnait l'ordre aux soldats, baïonnette au canon, ils sortaient des tranchées et ils se battaient au corps à corps, mais ça, ils me le disaient pas. Plus tard, j'ai su que, justement, après l'ordre donné, baïonnette au canon, il s'est trouvé face à face avec un Allemand qui avait son âge, et c'est lui qui a tiré le premier. Mais ça, il nous l'a jamais dit. Il l'a dit à ma mère, qui me l'a dit beaucoup plus tard.
Alors, racontez-nous au 3210 votre histoire familiale. Comment transmettre la mémoire de la Première Guerre mondiale? Avec nous en studio, l'historien Dimitri Casali, auteur du livre « Ce que la France doit aux Français », venu d'ailleurs aux éditions First.
Et on le salue à nouveau.
Bonjour.
Rebonjour. Notre question aujourd'hui, c'est comment transmettre la mémoire de la Première Guerre mondiale? Pourquoi dire à un enfant de 10 ans que c'est important qu'il sache ce qui s'est passé en 14?
Déjà, s'il veut comprendre la France, s'il veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tout est historique. Et la guerre de 14, c'était effectivement nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a quelques générations. Et ça a été un traumatisme, le plus grand traumatisme de l'histoire de France. 1 385 000 morts. Un tiers des jeunes de 18 à 22 ans. Vous vous rendez-vous compte? C'est la première fois dans l'histoire de France que des pertes aussi incommensurables étaient, et sans parler des 8 millions de blessés, de tous les départements du Nord complètement détruits. C'est une horreur, la guerre de 14. Mais la guerre de la Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup moins de morts, 600 000 morts, et les dégâts étaient de moindre importance dans le Nord de la France.
Et c'est une élite française qui est décapitée. Une élite donc qui était promis forcément un avenir littéraire, politique, intellectuel, tout ce qu'on veut, et qui ne pourra pas arriver à
C'est un suicide, c'est un véritable suicide pas simplement de la France, hein, de l'Angleterre, de l'Allemagne aussi, alors que l'Europe, c'est à ce moment-là, il faut bien comprendre que l'Europe va perdre sa suprématie internationale et c'est les places aux États-Unis, au Japon, aux nouvelles puissances. C'est un suicide, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile. Déjà, il y avait eu des... On était beaucoup plus proches des Allemands qu'on ne le... Enfin, alors la France et l'Allemagne, mais par exemple de l'Autriche-Hongrie, de Vienne, avec les Viennois, on était extrême. Vienne et Paris étaient les deux capitales internationales de la culture mondiale.
Alors, une pause, et puis le principe de cette demi-heure, c'est que vous puissiez échanger avec les auditeurs. On va être avec Claudie dans une seconde, et avec Chantal, là tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, nous sommes donc avec Claudie pour parler de ce 11 novembre et qui va pouvoir échanger avec M. Casali, qui est historien. Et notre question, c'est effectivement comment intéresser les plus jeunes à la guerre de 14. Qu'est-ce que vous avez fait, Claudie, aujourd'hui ?
Eh bien, bonjour à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai emmené mon petit-fils, comme on fait même à chaque fois qu'on va au cimetière en temps normal, on passe toujours sur le carré des soldats. Mais aujourd'hui, en premier, nous sommes passés sur le carré des soldats au cimetière de mon petit village, avec mon petit-fils qui a 8 ans.
Et c'est des... D'abord, ce petit village, il est dans la Sarthe ?
Oui, il est à Maillé.
Et le carré des soldats, il y a des soldats de 14 ?
Oui, il y a des soldats de 14.
Donc, dans le petit village de Maillé, c'est combien d'habitants, Maillé ?
3200 habitants à peu près.
Donc c'est ça qui est une histoire française, c'est-à-dire que des habitants de Maillé dans les années 14, 15, 16, 17 et 18 sont morts pour la France et sont enterrés dans le cimetière de Maillé, c'est bien ça ?
Sont dans le cimetière de Maillé, voilà, ceux qui ont pu être identifiés et être enterrés, parce que je suppose qu'il en manque énormément.
Et alors là, M. Casali, c'est ça l'histoire française, c'est que chaque village est touché.
30 000 monuments aux morts à travers la France, donc pratiquement un par commune. Moi, je suis toujours sidéré, au sein de notre association, on défend aussi ce patrimoine, ces monuments, du nombre, de la longueur, quand on se retrouve, vous-même, je suis sûr, dans des petits villages perdus du Massif central, on voit des listes sans fin. Mais on se dit comment ce petit village aussi petit a pu donner autant autant de vie pour la France. Et c'est vrai que, bon, premièrement, c'est vrai que la France était essentiellement rurale, certes, mais surtout, ça a été un sacrifice national. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et cet après-midi, avec Maurice Genevoix, c'est ce témoignage qu'il faut mettre en avant. Jamais dans toute l'histoire de France, autant de Français se sont sacrifiés pour leur pays.
Claudie, vous étiez avec votre petit-fils, vous dites ?
Oui, il est là en plus, il est là, il a 8 ans, il vient d'avoir 8 ans.
Ah ben, faut qu'il nous parle, alors il s'appelle comment ?
Ah, je vais vous parler, Andy.
Dis-moi oui.
Bonjour.
Bonjour Andy. Tu es donc allé ce matin au cimetière avec ta grand-mère ?
Oui.
Et donc tu es passé devant le carré des soldats de 14-18 ?
Oui.
Et alors, quelle impression tu as eue et... Qu'est-ce que tu as retenu de ce que ta grand-mère Claudie te disait ?
Qu'il y avait des jeunes et des personnes âgées aussi.
Dans cette guerre ?
Le plus jeune de tous, il avait 17 ans.
Et c'était la guerre de 14 qui a duré 4 ans, Andy. Bah écoute, merci pour ces quelques mots. Mais c'est vrai qu'il est très jeune, Claudie, encore. Et pour être tout à fait sensibilisé, forcément, qu'on a 7 ans, 8 ans, la guerre, c'est peut-être un peu abstrait. Qu'est-ce que vous lui avez dit ce matin ?
Mes grands-parents ont connu la guerre.
Ben merci Andy, on va reparler peut-être avec ta grand-mère Claudie et puis je vais te remercier et je ne sais pas si Claudie a entendu la question que je voulais lui poser, mais qu'est-ce que vous avez dit à Andy, Claudie, quand vous êtes passé devant ce
car... La maîtresse a parlé de la Première Guerre mondiale, pourquoi elle a été commencée.
Bon, Andy, est-ce que tu peux me repasser ta grand-mère, Andy, qu'on finisse la conversation et
allô ?
Voilà, je disais, je ne sais pas si vous avez entendu la question que je vous posais, parce qu'il est très jeune, forcément, Andy, pour
oui.
Que ce soit très concret, forcément, pour lui. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Je lui ai expliqué que ces gens-là étaient partis jeunes, et leur maîtresse aussi hein, participait. Donc, je lui dis depuis des années, hein, parce que là, on y va à chaque fois. Et je lui ai expliqué que ces gens-là se sont battus dans des conditions atroces par rapport à d'autres guerres, et puis ne plus jamais de guerre, hein, c'était clair. Hein. Ne plus jamais ça, hein, mais bon.
Et puis, on remettra ça quand même quasiment 30 ans après. Merci Claudie, merci Andy, bonne journée. 14h12 sur RTL, on est avec Chantal. Ah, tenez, une petite chanson d'abord, peut-être que M. Casali.
Pour le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison.
C'est surtout le refrain, évidemment, qu'on connaît, que toute la France connaît, et c'est une chanson de 14.
La servante est jeune et gentille.
Et c'est la.
Légère comme un papillon.
Donc il y a beaucoup de chansons qui sont créées dans ces années-là, évidemment.
Il faut comprendre qu'à cette époque, le patriotisme était absolument lié, faisait partie de l'individu, du français en particulier, hein, avec l'histoire déjà que nous avions. En fait, les Français se sacrifient. Mourir pour la patrie, si vous préférez, eh bien, c'était tout à fait accepté. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Hein, plus personne pourrait mourir pour la France. Eh bien, à l'époque...
Certains militaires, quand même, acceptent encore ça.
Oui, alors l'armée, voilà, notre armée de métier, bien sûr, que je salue au passage, mais a accepté justement ces militaires, même si on a vu qu'après l'embuscade d'Ouzbine en Afghanistan, leur famille avait porté plainte contre l'État. Hein, ça aussi, c'est une grande première, souvenez-vous. Donc on voit bien que les mentalités changent, alors qu'à l'époque, le sens de l'honneur, le panache en plus, en France, c'était très important, et les Français, les 8 millions de soldats français ont fait leur devoir jusqu'au bout. C'est ce que témoigne Maurice Genevoix cet après-midi.
La pause et on continue la discussion. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Quand Madelon vient nous servir à boire.
Mais tout le monde connaissait ça, Boris. Boris, c'est intéressant parce que la transmission. Boris est réalisateur avec nous aujourd'hui. Vous avez quel âge, Boris ?
J'ai 33 ans.
33 ans. Eh bien, vous ne connaissiez pas la Madelon ?
Pas du tout.
Et alors que moi, c'est pas mon époque, 14-18. Pourquoi cette transmission ne s'est pas faite de la même manière ? Pourquoi les gosses que nous étions connaissions la Madelon alors que cette génération ne la connaît plus
Parce qu'après 68, il y a eu un rejet total de tout l'état militaire. De l'histoire militaire qui persiste encore aujourd'hui dans les manuels de l'éducation nationale. Hein. Vous savez, même si Jean-Michel Blanquer fait beaucoup d'efforts pour changer tout ça, les programmes depuis 30 ans ont été conçus par un rejet de tout ce qui est militaire. Et voilà, les conséquences sont là aujourd'hui.
Donc on ne connaît plus la Madelon. Chantal est là. Bonjour oui. Chantal, vous habitez
oui,
Belfort.
Bonjour Pascal.
Parlez-nous de votre, de votre guerre de 14.
Oui, elle est un petit peu particulière, mais pas unique, bien entendu. J'ai eu mes deux grands-pères qui ont fait la guerre de 14, un grand-père maternel alsacien et un grand-père, entre guillemets, français. Et tous les deux ont fait la guerre de 14, mais dans des camps opposés, un du côté allemand et un du côté français.
Ça, c'est une histoire particulière, parce qu'effectivement, l'Alsace est allemande en 14.
C'est pas particulièrement unique non plus. Mais c'est vrai qu'en 1914, l'Alsace était allemande. J'ai eu mon grand-père paternel qui ne parlait pas français. Il parlait le dialecte alsacien et allemand. Et son épouse, ma grand-mère, a été quelque part sa voix, parce que moi, je ne parlais pas l'alsacien ni l'allemand, bien entendu.
Et ce grand-père alsacien, une fois qu'il est devenu français, parce qu'il
c'était un bonheur.
Comment il a vécu, lui, cette période-là ?
Pour lui, j'allais dire, c'était un chagrin, je dirais même une désespérance d'avoir à se battre contre la France. La France était son pays. La France, c'était son pays de cœur, c'était son pays, j'allais presque dire, de naissance. Ça n'était pas l'Allemagne.
Ça, c'est une histoire très particulière de l'histoire de France, évidemment, l'Alsace et la Lorraine.
Ah, c'est un témoignage vraiment, merci madame, très émouvant, parce que ça on l'oublie toujours. Moi qui suis de Toulouse dans le sud, on voit les gens éprouvent très peu d'intérêt envers les guerres, ça n'a pas d'importance, alors que dès que je vais à Strasbourg, mais tout de suite on sent cette fibre patriotique, cette fierté d'être français, parce que vous avez tellement souffert pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, que vraiment c'est pas du tout les mêmes territoires. Et Ce témoignage est fondamental parce que c'est vrai que ces gens qui ont servi, on les appelait aussi les malgré nous, là, vous savez, ils ont été encore engagés pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a été tragique pour eux de servir le nazisme alors qu'ils étaient français de cœur.
Mais le témoignage de Chantal est extraordinaire. Deux grands-pères, elle a 69 ans, je peux dire votre âge, Chantal.
Oui, bien
deux
sûr,
grands-pères,
j'ai pas de
soucis. Deux grands-pères qui ont disputé la Première Guerre mondiale, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, pardonnez-moi, oui. Plus exactement. Et l'un en tant qu'Allemand, l'autre en tant que Français. Alors, quand ils vous parlaient de cette période-là, l'un ou l'autre, est-ce qu'ils évoquaient la vie dans les tranchées et leurs souffrances?
Oui, bien sûr. Ils ont évoqué la boue, le manque d'hygiène, cette terreur qui était au fond d'eux aussi, hein, parce que mon grand-père maternel a été gazé et mon grand-père paternel français a, lui, une balle au chemin des dames et il a eu sa clavicule littéralement explosée, donc il a toujours eu du mal avec son bras gauche. J'allais dire, tous les deux ont eu à souffrir dans leur chair et dans leur cœur de cette guerre.
Il y a eu une
tous les deux.
Il y a eu une journée, je pose la question à Dimitri Casali, où il y a eu 100 000 morts en France, et c'est le jour dans l'histoire de France où il y a eu le plus de Français morts en 24 heures.
Oui, oui, tout à fait, en 1914. Bon, même les 5 premiers mois de la guerre sont plus de 300 000 morts. C'est absolument hallucinant. Ça a été une hécatombe. Tout ça pour bien comprendre que c'est une rupture technologique, la guerre de 14, hein, avec ses mitrailleuses, ses obus à tir courbe. On se bat dans les airs, sous l'eau, les sous-marins, les gaz dont vous venez de parler, chère madame, c'est des choses qui n'existaient pas pendant la guerre de 1870. Et c'est vrai que ce sont des véritables hécatombes. Et les soldats, psychologiquement, n'étaient pas préparés, et les officiers encore moins, à cette horreur.
Chantal, est-ce que vous regarderez l'hommage tout à l'heure de Emmanuel Macron et l'entrée au Panthéon de Boris Genevoix?
Oui, je regarderai parce que, j'allais dire, les deux guerres mondiales, d'une manière ou d'une autre, ont été le socle de au moins de mon histoire. Mon père a été lui-même résistant et déporté à Buchenwald, donc j'allais dire, quelque part, les deux guerres ont forgé peut-être mon caractère, parce que tous les deux m'ont transmis, toute ma famille m'a transmis leur vécu, leurs difficultés aussi dans ces deux guerres, et puis c'est quelque part mon histoire aussi qui m'a été transmise, ma propre histoire, que malheureusement, étant célibataire, je ne pourrais que difficilement transmettre à mes enfants n'en ayant pas, mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai de la famille hein, aussi, qui eux le transmettent à leurs propres enfants, donc c'est quand même un réconfort.
Vous êtes à Belfort aujourd'hui, quand vous étiez plus
oui,
jeune?
Oui, je suis
vous
à Belfort, je suis chez moi, confinée, toute seule.
et dans votre adolescence, dans votre jeunesse, vous étiez où, Chantal?
Toujours à Belfort. Je suis née à Belfort. Mon grand-père était d'origine italienne, mais né à Belfort. Mmh. Et bon, j'ai toujours vécu à Belfort. Voilà,
mais
j'ai travaillé
une histoire française.
Et vécu à Belfort.
C'est une. Quand vous dites votre grand-père italien, j'imagine qu'il était arrivé effectivement à
l'immigration. Oui,
il y a beaucoup d'Italiens. Bien sûr, beaucoup d'Italiens sont arrivés dans cette région-là,
dans notre région, bien sûr.
Bien sûr. Donc c'est une histoire française que vous racontez en quelques secondes, j'ai envie de dire.
C'est gentil, mais bon,
je
suis émue de le dire parce que ça me ramène aussi à mon adolescence. Ça me ramène à mon grand-père. Un de mes grands-pères est mort en 63, mon grand-père maternel, et l'autre en 92. Donc, j'ai pu quand même beaucoup échanger quelque part sur leur histoire commune, différente mais commune.
C'est ça qui frappe depuis 13 heures, c'est combien il y a de l'émotion chez des gens qui ont un certain âge, bien sûr, à parler de cette période-là, Dimitri Casali.
Oui, votre témoignage, chère madame, me touche particulièrement parce que j'ai moi-même, Dimitri Casali, je suis d'origine italienne, mais un de mes arrière-grands-pères était alsacien. Donc un peu comme vous, et effectivement on retourne parce que c'est une guerre civile. Vous parlez, c'est une guerre civile.
Oui,
déjà.
C'est intéressant, le terme que vous employez, qui n'est jamais employé en fait.
C'est une guerre civile.
Une guerre civile pour reparler de la guerre de 14-18.
On le sent, si vous connaissiez les échanges avant la guerre de 1870 entre les élites françaises et les élites allemandes. Les Allemands ont toujours été fascinés par la culture française, par l'art de vivre français. Et c'est vrai qu'il y avait, on était plus proche, l'ennemi héréditaire. ça a toujours été l'Angleterre. Mmh. Et là, malgré, à cause de cette guerre de 1870, nos frères d'outre-Rhin sont devenus nos pires ennemis et ce fut un grand malheur.
Et on peut lire d'ailleurs Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, qui dit que la fin de la guerre de 14, le début de la guerre de 14, marque la fin d'un âge d'or. Un âge d'or, c'est ce que vous dites, où les élites fonctionnaient ensemble, où on croit au progrès, où on croit à la culture, on croit que le monde va être débarrassé de tout ça. Et le XXe siècle va être le pire, de l'histoire. Et dans Le Monde d'hier de Zweig, qui est un bouquin absolument formidable, très facile en plus à lire, c'est vraiment très agréable à lire, il y a cette idée-là et vraiment que en 14, quelque chose s'est arrêté.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison de citer Stefan Zweig, cet immense auteur. C'est la fin d'un monde et un nouveau monde. C'est la phrase de Paul Valéry qui dit justement après la guerre de 14 que nous avons compris que les civilisations étaient mortelles.
Dernier témoignage peut-être de Daniel, très rapidement. Bonjour Daniel.
Bonjour,
vous habitez
monsieur.
À Maubeuge.
Oui, c'est ça, oui.
Et votre grand-père était à Verdun.
Alors, mon grand-père est né en 1884. Il a combattu à Verdun, il a vécu la tranchée des baïonnettes. Il n'en parlait pas beaucoup. Il en parlait quand, comme on dit, il avait bu un petit verre. Et alors, à chaque fois, il pleurait. Il savait pas en parler sans pleurer. Mais voilà, il nous racontait la soif. Il buvait leur urine. Et alors, au moment de monter à l'assaut, on leur donnait de l'agnole. Et mon grand-père avait beaucoup de mal à en parler. Je vous dis, c'était une blessure ouverte tout au long de sa vie. En plus, il a eu la double peine parce que ma grand-mère est décédée en 1917. Il était à la guerre et de la grippe espagnole. Et au sorti de la guerre, il s'est retrouvé tout seul, veuf, avec trois enfants en bas âge, disséminés dans trois orphelinats différents, à Lyon, Paris et Bruxelles. Et il a mis plus d'un an à faire les recherches et récupérer ses enfants. Moi je suis de 1944, mais en 1960, quand mon père a eu sa première voiture, tous les ans, il fallait l'emmener à Verdun. Alors on faisait tout le champ de bataille, les vestiges, quoi, et l'ossuaire de Douaumont, et c'était une journée de pleurs, voilà.
Merci Daniel, on pourrait évoquer la guerre de 14 toute l'après-midi. Hélas, il est déjà 14h26 et je remercie Dimitri Casali. Oui, ça passe très très vite. Restez quand même quelques secondes avec nous parce que Laurent Tessier va pouvoir faire un rappel avec nous par rapport à la question qu'on posait. Flavie Flamand à 14h30, mais restez quelques secondes après la page de pub.